Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Kayla Itzinas.
Kayla Itzinas.
I'm Kayla Itzinas, and I have been training a global community of women since 2009. I've created a brand new podcast, Sweat Daily, to help you level up your life and reach your health and well-being goals. From fitness tips to food that fuels you, meditation to motivation, we've got you covered. Sweat Daily, the happiest, healthiest, and most confident version of you awaits. Available on Apple Podcasts and wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Et bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue pour cette nouvelle pastille draft sur Touchdown Actu. On s'approche de l'événement, la draft NFL évidemment, le Super Bowl de Jean-Michel Boujard. Et ça tombe bien, il est avec moi pour parler des Seahawks. Bonjour Jean-Michel.
Hey, bonjour Victor, bonjour tout le monde. Allez, plus que 15 jours et ça y est, c'est la grande soirée.
Est-ce que tu comptes les dodos avant tous les soirs, tu te dis encore 15 dodos et c'est bon?
Ouais, j'ai un calendrier, je fais des croix, etc. Ouais, puis tout est prévu, au travail j'ai posé les jours de congé, etc. Et oui, ça arrive, c'est bientôt Noël là.
Eh ouais, la logique des dodos, hein, évidemment, tous ceux qui sont père ou mère de famille me comprendront, on a tous joué avec ça. Les Seahawks qui, avec le choix numéro 16 au premier tour, décident d'entourer le légendaire Geno Smith avec encore plus de protection, puisqu'ils décident de prendre Troy Fautanou. Écoute, Jean-Michel, la question que tout le monde se pose, va-t-il jouer tackle ou va-t-il jouer garde ?
Alors, Troy Fautanou, il jouait tackle gauche avec l'Université de Washington. D'ailleurs, je le rappelle, l'Université de Washington, c'est à Seattle. Et moi, je pense qu'il peut tout à fait jouer tackle en NFL. Pourquoi ? Il manque peut-être un tout petit peu de taille, mais ce qui compte le plus pour un tackle, si on parle de mensuration, hein, après, bien sûr, c'est la technique, c'est le jeu, mais là, on est sur les mensurations, il manque un petit peu de taille. Mais figure-toi, Victor, qu'il a des bras plus longs que ceux de Joe Alt, il a des bras plus longs que ceux de Olufashanu, il a des bras plus longs que la majorité des tackles offensifs de cette QV. Et ça, c'est très important pour impacter le pass rusher lors du duel. Il a des longs bras. Après, il a encore d'autres qualités comme la mobilité qui est exceptionnelle. C'est un joueur qui, en plus, s'engage énormément dans le contact, que ce soit dans la protection, que ce soit pour ouvrir des brèches pour le jeu de course. Il est juste parfait. Moi, je pense qu'il peut jouer tackle en NFL. Mais c'est vrai qu'à Seattle, alors ok, tackle gauche, il y jouera pas. Il y a Charles Cross, il n'y a pas de problème. Tackle droit, Abraham Lucas nous a montré du bon, puis du moins bon. Mais je pense qu'il aura encore sa chance en 2024. Mais par contre, à l'intérieur, ils ont perdu Damien Lewis, ils ont perdu Evan Brown. Anthony Bradford, pour sa saison rookie, ça a été vraiment pas terrible. Alors bien sûr, il va rester, il va progresser. Mais il faut vraiment renforcer l'intérieur de la ligne offensive. Surtout que, on l'a bien vu l'année dernière, Geno Smith a été très souvent mis sous pression depuis l'intérieur de sa poche. Donc, année 1, tu le mets pas tackle, tu le mets guard, mets ton guard gauche à côté de Charles Cross, et déjà tu renforces 1, la protection de Geno Smith à l'intérieur, et 2, le jeu de course, parce qu'on le sait, ils ont des bons coureurs, ils aiment bien courir, et pour ça, Fautanou, il est excellent, et notamment tous les jeux en décrochage. Vous savez, par exemple, le guard gauche, engagement du ballon, tac, il bascule sur la droite, il va offrir un bloc, parce que le jeu de course part sur la droite, il est juste excellent pour ça. Et en plus de ça, moi je pense qu'il peut avoir un avenir en tant que tackle en NFL. Donc sait-on jamais, si Abraham Lucas ne ne remonte pas un petit peu la pente de sa progression, eh ben, tu auras ton tackle droit pour l'avenir. Donc, choix 16, tu as un titulaire au poste de guard et éventuellement un tackle pour l'avenir, eh ben, banco.
Oui, je suis assez d'accord avec ça. Quand tu dis, en effet, l'Université de Washington, t'as Seattle, je dis, pour ceux qui sont moins forts en géographie, on parle de l'État de Washington, hein, évidemment, et pas de la ville de Washington. Et en effet, l'État de Washington, c'est Seattle. Écoute, je suis assez d'accord avec toi. Moi, ce qui me dérange un peu avec Fotanou, c'est que, par moment, il me donne un peu l'impression d'être un gambler, un parieur, c'est-à-dire qu'il prend des risques inconsidérés, je trouve, au poste de tackle, parfois. Mais malgré tout, c'est vrai qu'il est extrêmement solide. Tu as dit, les dimensions physiques sont absolument gigantesques. La force physique est là. Je dois avouer que, justement, j'aime bien l'idée de mettre en garde pour justement un peu de canaliser entre un centre et un tackle plutôt que de le laisser, on va dire, virevolter au niveau du poste de tackle. Et tu l'as dit, il a la mobilité pour bouger sur son bloc si besoin. Donc, tu peux quand même utiliser cette capacité athlétique même s'il est au poste de garde. Donc, évidemment que c'est important. Moi, c'est un joueur où je suis peut-être trop bas sur lui et je vois bien en effet que le consensus est largement plus haut. Voilà, je le vois moins en tackle que toi, même s'il a les dimensions physiques, mais je trouve qu'au niveau du positionnement de ses mains, etc., il se fait un peu trop souvent avoir. Après, ça s'apprend, ça se coach, hein. Si ça se trouve, dans 2 ans, il est un des meilleurs tackles de la ligue, et tant mieux pour lui. Mais en tout cas, commencer en garde comme ça, pour moi, ça fait du sens. En effet, attendre de voir le développement d'Abraham Lucas. Voilà, après une ou deux saisons, si on voit que ça ne se fait pas, bah, tu passes faute à nous et puis tu recrutes quelqu'un à l'intérieur. Pour moi, ça fait beaucoup de sens.
Et tu vois, juste une petite parenthèse, on reste dans la division et c'est pour parler du joueur. Mais moi, je trouve que vraiment, le fit vraiment rêvé pour Troy Fautanou, ça serait San Francisco. Alors, ils sont un peu trop bas, je pense, dans la draft. Il faudrait donner trop de munitions pour remonter et le chercher. Mais c'est vraiment ce profil-là du lineman offensif très mobile pour des systèmes de zone, de décrochage, pour le run, etc. Il serait juste parfait à San Francisco et il serait très bien à Seattle aussi, mais voilà, c'est vraiment ce type de joueur là, très fiable. Ok, c'est qu'un guard, mais franchement, enfin, c'est qu'un guard. Même s'il joue que guard, il vaut largement un milieu de premier tour.
Ouais, tu sais, Philadelphie, ils ont besoin d'un garde aussi. Je pense que c'est un move qui ferait très Howie Roseman. Donc on a vu le premier tour, et là on arrive au troisième tour. On rappelle, Seattle n'a pas de deuxième tour. Hein, donc, les trois choix dont on va parler, ils sont très équivalents, puisque c'est 78 et 80. Donc, globalement, c'est à peu près le même choix. Et alors, je suis assez content que tu en parles, parce qu'on va parler d'un joueur, je trouve, qui est très peu discuté pendant le processus draft. C'est un defensive back. C'est Mike Sinristil, je ne sais pas si je le prononce bien ou pas, de Michigan. Paradoxalement, même en étant dans le programme le plus regardé l'année dernière, je trouve que c'est un joueur dont personne ne parle, alors que c'était un des, comment dire ça d'une manière positive, un des chiens enragés de la défense de Michigan, encore une fois dans le bon sens du terme vraiment. Jean-Michel, est-ce qu'on n'est pas là sur potentiellement la belle affaire du troisième tour ?
Ah oui, je pense. Je pense que s'il part là au troisième tour, ce spot-là, c'est vraiment le style, comme on dit, la bonne affaire. Oui, effectivement. Pourquoi on en discute assez peu ? Ben, parce que ben, ça tout commence avec les mensurations. C'est un arrière défensif, il a plutôt un petit gabarit, il est plutôt léger. Donc, c'est généralement des joueurs qu'on va regarder plus tard. Voilà. On va d'abord regarder des cornerbacks plus imposants, des Quinnon Mitchell, des Darion Arnold, etc. Et lui, on verra ça plus tard. Mais c'est une erreur, parce que c'est un très très bon joueur. Voilà, c'est quelqu'un qui a fait 3 saisons comme receveur à l'Université de Michigan. C'était plutôt un bon receveur, un receveur numéro 3, numéro 4. Il a fait quelques touchdowns, etc. Mais c'était pas non plus extraordinaire. Et puis, à Michigan, il y a eu beaucoup de besoins. Le coach défensif, qui s'appelait Mike McDonald, voilà, je le précise, puisque c'est désormais l'entraîneur de Seattle, lui a demandé de passer en défense, d'essayer lors du camp d'entraînement. Ils avaient perdu Daxton Hill, etc. Il a essayé et ça a super bien marché, parce que c'est un joueur très intelligent, un joueur très physique. Il a fait plusieurs interceptions cette année. Il est également très bon en blitz. Dans le slot, il a une grande vivacité pour marquer. Tous les petits receveurs vivent dans le slot, à l'intérieur du terrain. C'est quelqu'un qui, en plus, offre beaucoup de polyvalence, comme tu le disais. Et ça, on le sait. Mike McDonald, on l'avait vu à Michigan, on l'a encore vu à Baltimore l'année dernière. Il aime bien feinter comme ça les attaques. Alors, c'est pas le seul, bien entendu, mais c'est sa spécialité de feinter l'attaque avant et après le snap. C'est-à-dire qu'avant l'engagement, il montre un alignement défensif, mais dès que le ballon est engagé, tac, tac, les joueurs bougent, changent de position, et du coup, ça feinte l'attaque. Et avoir un joueur comme Sandry Steele, c'est juste parfait dans ce système-là. En plus de ça, Seattle, au niveau des arrières défensifs, il y a Tariq Woolen qui a quand même montré des bonnes choses depuis des saisons. L'année dernière, ils ont pris Witherspoon qui est excellent. Et ils l'ont un petit peu baladé l'année dernière entre le poste de nickel à l'intérieur et le poste à l'extérieur. Il peut faire les deux, il n'y a pas de souci. Mais Witherspoon, il a une telle qualité que installe-le à l'extérieur. Mais pour l'installer à l'extérieur, il te faut quelqu'un à l'intérieur. Surtout que Seattle a perdu deux safety. Sandry Steele jouera pas safety, c'est pas ce que je veux dire. Mais le nickel cornerback, c'est quand même à l'intérieur du terrain, donc renforce l'intérieur du terrain. En même temps, tu as tes extérieurs avec Woolen et Witherspoon, et là, du coup, tu as des arrières défensifs très performants. Donc, comme le bon plus, le coach le connaît depuis ses années Michigan, ça vite parfait.
Oui, je suis assez d'accord avec toi. Ça fait partie de ces retrouvailles qui font du sens, en fait. Tu te dis, c'est peut-être bête à dire, parce qu'il y a plein de coachs qui seraient peut-être très bien utilisés. Mais c'est vrai qu'inconsciemment, tu te dis, bah, forcément, hein, quelqu'un qui le connaît déjà, s'il le prend, c'est qu'il a une idée derrière la tête. Bon, en tout cas, ça a été le deuxième choix. Et j'insiste, hein, allez voir ce joueur, parce que je trouve que c'est vraiment assez inexplicable à quel point il n'est pas regardé, tout simplement. Pas regardé ou pas mentionné en tout cas, parce que je suis sûr que des scouts NFL le regardent, mais il n'est pas mentionné dans les discussions et ça me rend un peu dingue. Toujours dans ce troisième tour, les Seahawks, cette usine à linebackers, non, il y en a surtout un qui a marqué les esprits ces 15 dernières années, mais bon, les Seahawks ont un besoin criant au poste de linebacker. Et celui qui est sélectionné pour reprendre le flambeau, pour devenir le nouveau Bobby Wagner, évidemment, sans pression, hein, tranquille, c'est Trevin Wallace, le linebacker de Kentucky. Je ne vais pas mentir, moi c'est un joueur que je n'avais pas énormément dans le radar. J'ai vu ses performances athlétiques, etc. Mais je n'ai pas sur-regardé Kentucky cette année, en tout cas pas en défense. Et du coup, Jean-Michel, parle-nous de ce joueur et de ce qui t'a plu.
Ben, beaucoup de choses m'ont plu chez ce joueur. Je trouve qu'il a vraiment le profil du linebacker moderne. C'est-à-dire qu'avant, le linebacker, il devait surtout être très imposant, les épaules carrées, aller au contact, etc. Alors lui, il va au contact, bien évidemment. Mais par moderne, j'entends qu'il est très rapide. Très rapide, c'est-à-dire qu'il est très athlétique pour se défaire d'un bloqueur. Il joue de ses mains, il se décale au niveau des pieds et hop, ça y est, il est passé. Il est très rapide pour chasser les coureurs, que ce soit nord-sud, en ligne droite, s'il y a une brèche, hop, il attaque la brèche, il va stopper le coureur. Que ce soit latéralement, un coureur qui change de direction, il n'y a pas de souci, il sait le rattraper. C'est vraiment le linebacker moderne, la petite bombe. Et puis voilà, Seattle, ils ont perdu, comme tu l'as dit, Bobby Wagner. Ils ont également perdu Jordyn Brooks. Et puis voilà, sans pression, ben non, sans pression, parce que on va pas l'attendre comme le remplaçant de Bobby Wagner. Ils ont signé Jerome Baker, ils ont signé Tyrell Dodson. Ce sont deux joueurs corrects, ce seront eux les titulaires. Donc, mais deux, ça suffit pas, même si c'est souvent deux sur le terrain en même temps. Il te faut un élément d'avenir et surtout un élément avec un potentiel supérieur à cela. Et Trevin Wallace a clairement un potentiel supérieur. Il a les qualités athlétiques, il a l'intelligence de jeu. Et en plus, avec Kentucky, moi, ce que je trouve très intéressant dans ce type d'université, c'est que tu joues dans la meilleure conférence universitaire, la SEC. Donc, ça veut dire que tu affrontes que des gros adversaires. Donc, déjà, ça, c'est intéressant. Mais en plus, tu les affrontes avec Kentucky. Ce que je veux dire par là, c'est qu'à côté de lui, il n'avait pas un autre super linebacker, que devant lui, il n'avait pas des méga défensifs tackles qui lui mâchaient le travail. Donc vraiment, il a fallu qu'il se démène dans tous les sens, et il a montré. Et il a montré dans la meilleure conférence universitaire, lors du process. Il a confirmé, il a vraiment tout d'un linebacker pour la NFL, pour faire vraiment sa carrière, et Seattle en a besoin.
Ah, je suis d'accord avec toi. Meilleure conférence universitaire, on verra l'année prochaine. Moi, je sens qu'avec tous ces remaniements, il pourrait y avoir un duel. Parenthèse refermée. Non, écoute, c'est vrai que moi, comme je l'ai dit, c'est pas un joueur que j'ai énormément étudié. Donc, je vais pas donner un avis très long parce que je parle pas de ce que j'ai pas vu, pour être tout à fait honnête. Mais je pense que le besoin, il fait un énorme sens au niveau de Seattle. Il y a eu clairement un investissement sur la ligne. On l'a vu ne serait-ce qu'avec le trade de Leo Williams. Il y a eu aussi beaucoup d'investissements au niveau de la ligne arrière. Hein, on l'a dit avec Witherspoon qui a été pris en 5, si ma mémoire me fait pas défaut. Donc c'est quand même une équipe qui n'est pas frileuse à investir sur la défense. Et je pense que ce poste de linebacker, il va falloir de toute façon en parler et le faire. Donc pour le coup, pour moi, ça fait beaucoup de sens. Donc je suis assez content de voir Seattle s'intéresser à ça. Donc voilà, on a fait le tour pour Seattle avec, je le rappelle, Troy Fautanou, dont la fiche a été publiée le 1er avril, c'est une fiche de Elliott. Donc si vous voulez un autre avis sur le joueur, n'hésitez pas. On vous rappelle évidemment qu'il y a une fiche draft tous les jours, hein. N'hésitez pas à aller les consulter. On a parlé de Mike Senrisdale et on a parlé de Trevin Wallace. Demain, ce seront les Jacksonville Jaguars. Jean-Michel sera toujours là, mais suspense. Moi, je serai remplacé, benché, mis sur le banc parce que les vétérans sont trop vieux et qu'on met des petits jeunes qui ont plus de potentiel pour évidemment essayer de remporter le Super Bowl. C'est comme ça que ça marche chez TDA, comme dans les franchises NFL. Merci Jean-Michel.
Merci Victor, écoute, c'est la dure loi du salary cap, t'as un contrat trop important, donc on va mettre un petit rookie, ça coûte moins cher, et puis il a du niveau, du potentiel.
Exactement, c'est la fin de ma carrière, merci à tous, et j'espère que vous ne m'oublierez pas. Écoute, passez une bonne journée, et évidemment, on se retrouve dès demain, merci à tous, salut.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
I'm Ina Garten. Welcome to Be My Guest, the podcast. One of the best gifts you can give friends is spending time together. But what's even better than that? Cooking with them. On Be My Guest, the podcast, new friends and old stop by my barn for some conversation and great cooking. We talk about food, life, and everything in between. Listen to Be My Guest, the podcast with me, Ina Garten, and join us wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.